8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, nous sommes le lundi 16 juin 2025. Vous venez d'entendre Rosalie, si je ne m'abuse, sur les ondes du 88.4. Je n'ai pas le titre de la chanson par contre, mais tout ça pour dire j'ai cru que Marine à la technique allait nous dire le morceau. Non, je voulais le placer pour vous dire que nous avons un comité de programmation musicale à la radio fait par des bénévoles et il et elle gèrent à fond. Et si vous voulez les rejoindre d'ailleurs, n'hésitez pas, renseignez-vous sur les sites de la radio. Bref, je m'égare. Je voulais vous dire aussi qu'il y a toujours un jeu concours en ce moment. Les membres de l'asso humanitaire Pengal Alayam, une asso qui vient en aider aux femmes et filles indiennes victimes de violences, organise deux journées de découverte de la culture indienne. C'est les 27 et 28 juin prochains. Ça se passe à Janzé et ça s'appelle le Fest India. Et donc, vous pouvez gagner une place pour le spectacle de danse et de musique indienne du Fest India. Ça, c'est le samedi 28 juin à 20h30 à la salle du Jansieg. Pour jouer et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe. Le mot de passe, c'est le temple des femmes. Pengal Alayam en tamoul, ça veut dire le temple des femmes. Voilà pourquoi. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Mais tout de suite, c'est le flash d'Anthony.
Le sommet du G7 commence ce lundi dans les Rocheuses canadiennes, alors que les pays membres se trouvent confrontés à des tensions croissantes. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a souligné l'importance d'éviter le protectionnisme et a exprimé des préoccupations au sujet de l'escalade militaire au Moyen-Orient, mettant l'accent sur la nécessité d'une réponse diplomatique. Donald Trump entend aborder plusieurs sujets controversés, des droits de douane à la guerre en Ukraine. Les dirigeants du G7 s'orientent vers des engagements succincts et concrets au lieu d'un long communiqué au final. Communiqué final, une stratégie visant à minimiser des tensions. En amont de ces discussions, un nouveau rugissement de missiles a secoué l'Iran, signe que le lion du Moyen-Orient ne s'est pas endormi. Vendredi, Israël a lancé l'opération Rising Lion, déclenchant une flambée de violence sans précédent entre les deux puissances. 4 jours de frappes aériennes entre Israël et l'Iran ont ravagé la région, transformant des villes en cibles mouvantes et les civils en boucliers humains. À toi, Maïva.
Vendredi, il est un peu plus de 5 heures à Téhéran quand le ciel s'ouvre sur une salve de missiles. Israël frappe simultanément plusieurs sites stratégiques, le complexe nucléaire de Natanz, une raffinerie à Téhéran, et même un dépôt de carburant selon The New York Times. En tout, 224 morts côté iranien et plus d'un millier de blessés selon le ministère de la Santé de Téhéran. Les frappes israéliennes visent aussi les têtes du régime, 6 hauts gradés, 2 scientifiques nucléaires et un négociateur influent sur le nucléaire sont tués. Le général Bakeri, commandant en chef des forces armées, et Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution, figurent parmi les victimes. L'attaque, selon Israël, se veut préventive contre un programme nucléaire secret, avancé au point de permettre l'assemblage de 15 bombes en quelques jours. En réponse, l'Iran ne se fait pas prier. Balles contre bombes, Téhéran envoie des vagues de missiles vers Haïfa, Tel Aviv, Petah Tikva. Le service médical d'urgence israélien parle d'au moins 21 morts depuis vendredi et près de 400 blessés. À Petah Tikva, ce lundi matin, les immeubles sont troués et les balcons sont suspendus comme des dents arrachées. Je n'ai pas vu de telles flammes depuis les années 80, confie un habitant à The Times. À des centaines de kilomètres de là, à Téhéran, Nobian Square est méconnaissable. Un immeuble de 14 étages s'est effondré, laissant derrière 60 morts, dont 20 enfants. L'air est saturé, pas seulement de fumée, mais d'incertitude. Les routes sont embouteillées, les stations d'essence prises d'assaut, les valises sont prêtes, mais personne ne sait où aller. Les gens parlent bas et prient fort. La presse israélienne, elle, ne doute pas. Yedioth Aharonov, un journal israélien, affirme que Rising Lion n'est pas une déversion politique, mais une guerre de survie. L'Iran, de son côté, prévient les prochaines frappes seront plus dévastatrices et viseront des cibles vitales. L'espace aérien est fermé en Iran, en Israël et même en Jordanie. À Kanazaskis, au Canada, les chefs d'État du G7 discutent sous tension selon le média La Presse, Donald Trump, réinstallé à la Maison-Blanche, laisse planer le doute avec son sens bien à lui de la diplomatie. Parfois, ils doivent se battre, on verra bien ce qui arrive. Et pendant ce temps, sur le terrain, ce sont les civils qui paient. Une ambulance frappée dans le nord-ouest iranien samedi a fait 2 morts selon le Croissant Rouge iranien. Le conflit, lui, ne faiblit pas. Les sirènes succèdent aux sirènes, les nuits aux débris. Dans les rues dévastées, les familles fouillent les gravats à la recherche de survivants ou de corps à enterrer, où les hôpitaux débordent, manquent de tout et les enfants grandissent au rythme des explosions. Le quotidien n'est plus qu'attente et peur. Là où la vie s'écrivait de nuances, elle ne tient plus désormais qu'à une lueur vacillante au milieu des ténèbres. La population, otage d'un conflit qui la dépasse, endure dans le silence une guerre qu'elle n'a pas choisie. À chaque missile, c'est un peu d'avenir qui s'effondre. Dans une tribune publiée ce matin dans Le Monde, des personnalités iraniennes appellent à la démission du régime pour éviter une guerre encore plus dévastatrice. Le peuple iranien ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la provocation ou de la vengeance, écrivent-elles. Alors que les missiles tracent leur logique implacable dans le ciel du Proche-Orient, les appels à la désescalade, eux, semblent rester cloués au sol. Depuis son perchoir diplomatique, Macron plaide la paix. Selon le média Marianne, il affirme que la France participera aux opérations de défense d'Israël.
Et alors que le gouvernement français affirme qu'il participera à la défense d'Israël contre l'Iran, il ordonne en parallèle la fermeture de stands d'industriels israéliens de l'armement. Ça se passe au Salon international de l'aéronautique du Bourget. Le président israélien Isaac Herzog a déclaré sur LCI être choqué de voir les pavillons israéliens verrouillés, la création d'un ghetto israélien selon lui. Les organisateurs ont confirmé qu'ils avaient reçu des instructions des autorités françaises concernant le retrait de certains équipements, mais ont également noté que ces sociétés restaient autorisées à exposer au salon. L'événement est dirigé par le GIFAS, le groupement des industriels françaises aéronautiques et spatiales. Plus de légion d'honneur pour Nicolas Sarkozy, infamant. Pour son avocat Patrice Spinozzi, Nicolas Sarkozy a été condamné en décembre dernier dans l'affaire des écoutes. Pour rappel, l'ancien président a été reconnu coupable de corruption sur un magistrat de la Cour de cassation. L'objectif étant de recueillir des informations confidentielles. L'ancien président est également exclu de l'ordre national du mérite. Il est le 2e chef d'État français à perdre cette distinction après le maréchal Pétain. L'ex-homme politique a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, espérant une annulation de sa condamnation et donc du retrait de sa Légion d'honneur. Un homme de 29 ans a été poignardé à plusieurs reprises à Saint-Jacques-de-la-Lande dimanche soir. Les voisins ont alerté les autorités après avoir vu une altercation. L'agresseur qui a pris la fuite en scooter n'a pas encore été interpellé. La victime a été hospitalisé au CHU de Rennes dans un état sérieux. La direction de la criminalité territoriale du commissariat de Rennes se charge de l'enquête. Envie de détente, depuis ce week-end et jusqu'au 14 septembre, Exporama, le festival d'art contemporain de Rennes, est de retour au programme des expositions gratuites, des œuvres éphémères et des visites guidées partout dans la ville. Pour en savoir plus sur la programmation de la 4e édition, rendez-vous sur exporama-rennes.fr.
Et puis je crois qu'on a oublié le lancement du reportage, Anthony. Est-ce que tu l'aurais dans tes feuilles? On te laisse le temps de fouiller un petit peu.
Il y a une même technique, je ne vois pas.
On va se l'improviser. Eh bien, Enora est allée au collège Rosa Park de Villejean la semaine dernière, un collège dont l'annonce de la fermeture vient d'être faite par le département, si je ne m'abuse. Je te laisse me corriger, Enora, si je me trompe pas. On écoute.
Je suis devant le collège de Rosa Parks à Villejean, situé juste derrière la dalle Kennedy. Le monde commence à arriver et parmi elles et eux, je rencontre Anaïg, une habitante du quartier. Depuis qu'elle est là, c'est déjà 2 collèges qu'elle a vu se fermer.
Après avoir vu fermer la Harpe et Malifeux, où j'enseignais d'ailleurs, maintenant il s'agit de Rosa Parks. Cette année, ce sera la 6e qui doit partir, l'année suivante 5e, 4e, voilà, 3e. Et donc ce qui veut dire... Une classe par année, donc en 2030, il n'y a plus Rosa Parks, ça a vraiment fermé définitivement. J'ai du mal à comprendre.
Pour Sophie Olivier, secrétaire départementale de la CGT Éducation, leur parole n'a pas été écoutée.
J'ai suivi toute la pseudo-concertation du conseil départemental. On s'est senti un peu piégé aussi dans ces réunions où, de toute façon, le conseil départemental, depuis très 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 longtemps, moi ça ne fait que 12 ans que je suis à Rennes, mais la situation des collèges de Villejean a évolué négativement depuis de très longues années et la volonté du conseil départemental est de fermer ce collège. C'est évidemment qu'elle n'est pas affichée, mais c'est sous-entendu dans beaucoup de leurs actions.
À la rentrée prochaine, les élèves de 6e devraient se rendre au collège de Passé. Et peut-être que d'ici quelques années, un nouveau collège sortira de terre dans le quartier de Borgard. Mais ces solutions ne pallient pas à l'inquiétude des parents et de leurs enfants. Et pour Quentin, animateur social à l'association Sion Saliès, située sur Adèle Kennedy, la mixité sociale avancée n'est qu'un prétexte.
On se dit que là, le fait de demander aux élèves de partir à Passé ou à Borgard, ça pousse toute une partie de la population, la jeunesse et les familles, du coup, à s'excentrer par rapport à la grande place publique qui était la dalle Kennedy jusqu'à présent. Nous, c'est une question de rejeter un peu cette logique-là, de juste demander aux plus pauvres de toujours partir sous prétexte de mixité sociale, parce que autant la mixité sociale, c'est une chose, autant c'est jamais aux riches de venir dans les quartiers, c'est toujours l'inverse.
Derrière la fermeture de ce collège, c'est l'avenir du quartier qui est en jeu.
Alors c'est triste, il ne faut pas, parce que le quartier va perdre son âme finalement. Parce que ses enfants, c'est aussi l'avenir de Rennes, de Villejean d'abord, de Rennes ensuite.
La vie du quartier, elle se meurt petit à petit. Il y a de moins en moins de commerce, de moins en moins de passages, etc. C'est une question de soit on fuit le quartier et il ne se passe plus rien, soit on décide qu'il faut rester ici, occuper l'espace, montrer qu'il y a de la vie pour juste redynamiser le quartier. On a toujours moyen d'infléchir les décisions politiques parce qu'au dernier moment, c'est toujours les politiques qui décident, du coup les élus. Et notamment là, il y a les élections municipales qui arrivent l'an prochain. L'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut peut-être pousser un peu la majorité en place pour leur dire qu'à un moment donné, s'ils veulent aussi les voix des gens, il faut faire des efforts, entre guillemets.
Il y a à peine 14 heures, la marche s'amorce. En tête, quatre personnes portent un caveau, sur lequel une image de Rosa Parks dans son bus a été collée, et une vignette. Quand on s'appelle Rosa Parks, on ne cède pas.
Nous avons fait un rêve. Nous avons fait un rêve. Nous avons fait le rêve de pouvoir exercer notre métier dans des conditions décentes et acceptables. Nous avons fait le rêve que l'éducation nationale française apporte le même enseignement à tous les élèves, sans distinction de catégorie sociale, de couleur de peau ou de religion.
Merci Nora pour ce reportage. Nous, on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Chemisier rouge à motifs floraux, Alicia Bourgeois est présidente et fondatrice de l'association Projet AISE qui propose des ateliers d'upcycling participatif pour une mode plus responsable. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, cette association, elle a été créée il y a quelques mois.
Tout
vous
à
en
fait.
Êtes sa fondatrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours et d'où est venue l'idée de ce projet ?
Bien sûr. Donc, je suis étudiante à Rennes School of Business en master logistique et supply chain en alternance. Et l'idée...
Waouh. Il va falloir nous expliquer tout ça, parce que je pense que pour nos auditeurs, auditrices, c'est pas très clair.
D'accord. Donc, master à Rennes School of Business, du coup, en logistique supply chain, c'est toute la distribution et la production en entreprise. C'est toute la partie administrative et organisation de cette partie de l'entreprise. Et donc, du coup, je suis également en alternance pour finir mon année de master 2, donc chez le groupe Wonderbox, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai décidé de créer cette association il y a quelques mois à la suite d'un mail de l'incubateur de l'école. Donc un incubateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un lieu pour faire grandir les startups et les idées, les projets. Donc au sein de l'incubateur qui s'appelle InnoStart de Rennes School of Business, j'ai eu cette idée. On m'a aidé à la formuler, on m'a aidé à la pousser pour qu'elle soit au plus juste et possible et qu'elle puisse fonctionner. Et donc voilà, c'est, l'idée derrière, c'est avoir un projet qui a du sens pour moi personnellement, mais aussi partager du sens à toutes les personnes qui nous rejoignent dans ce projet. Le projet a pour but de réutiliser des vêtements que les magasins de seconde main ne veulent pas. Ce qu'on sait rarement, c'est que ce que vous donnez aux magasins de seconde main, il n'y a que 30% qui est sélectionné pour être vendu.
Donc les fripes, en gros, par exemple.
Toutes les fripes, en général, de manière générale, c'est 30% qui est sélectionné. Parce que le reste n'est pas assez à la mode, trop abîmé, trop petit, pas les tailles standards, etc. etc. Et du coup, 70% de ces vêtements partent dans des filières de recyclage plus ou moins adaptées et plus ou moins environnementalement acceptables, on va dire. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de ces 70% restants, de cette valeur et ressources qui est énorme. Et du coup, à petite échelle, je me suis dit, et si tout le monde participait un petit peu et essayait de venir redonner de la valeur à ces vêtements, tout en apprenant à coudre, tout en en partageant un moment convivial. Et voilà, projet AZ est né.
AZ, pardon, j'ai dit AZ.
Il n'y a pas de problème, AZ, AZ.
Donc, c'est ça qu'on appelle l'upcycling.
C'est ça.
Pour les moldus.
Pour les moldus, l'upcycling, c'est la rénovation de vêtements. En français, ça s'appelle surcycler. Mais ça, c'est très peu utilisé. L'idée, c'est simplement de reprendre un vêtement, du textile, et d'en faire quelque chose d'autre. Donc, par exemple, ma chemise rouge, si certains ne l'aimaient pas, vous pourriez couper les manches, en faire quelque chose de plus court, etc. Ou rajouter un autre tissu qui vous plaît. Dans nos ateliers, on essaye de faire en sorte que toute créativité soit la bienvenue. Vous pouvez associer n'importe quelle matière. Toutes les ressources sont là à votre disposition et vous pouvez faire ce que vous voulez.
Et donc, en parlant de ressources, cette matière première, elle provient d'où ? Est-ce que vous avez des partenaires fournisseurs ? Est-ce que les gens peuvent venir avec leurs propres vêtements ?
Donc, on a un partenaire principal, c'est la friperie, le magasin de seconde main chez Henri. Donc, chez Henri, c'est un magasin de la Croix-Rouge. Il y en a dans plusieurs villes en France. Et ce magasin de seconde main chez Henri, rue du Chapitre à Rennes, nous donne les vêtements qu'ils récupèrent mais qu'ils ne peuvent pas vendre. Et du coup, j'ai plusieurs valises dans mon petit studio étudiant remplies de vêtements qui n'attendent que vous pour être upcyclés et rénovés.
Et donc, est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas combien d'ateliers vous avez pour le moment, mais après, peut-être que vous ne pouvez pas non plus en empiler trop chez vous. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est difficile de trouver cette matière première ?
Non, la matière première est malheureusement en quantité quasiment illimitée. En fait, vu la montée croissante de la fast fashion et du nombre de collections qui sont sorties tous les ans et du nombre de vêtements sur le marché de la seconde main, là, j'ai eu la chance de trouver un partenaire aussi aidant, etc. Mais on peut facilement récupérer des centaines de vêtements. Moi, j'en ai presque trop à l'heure actuelle, parce que les ateliers ne sont encore pas tout à fait développés. Tu me demandais le nombre d'ateliers qu'on a. Pour le moment, c'est entre 4 et 5 ateliers par mois. On espère pouvoir développer pour proposer de nouveaux horaires et qu'il y ait plus de personnes qui viennent nous aider à réutiliser cette matière.
Et ces ateliers sont destinés à quel public ? Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de connaissances en couture.
Non, pas du tout. Alors le petit fun fact, c'est que j'ai créé une association d'upcycling participatif, mais je ne sais pas coudre.
Parfait.
Donc à partir de ce moment-là, quand la présidente ne sait pas coudre ni utiliser une machine à coudre, tout le monde est le bienvenu. Justement, l'idée, c'est d'essayer, de ne pas avoir peur d'essayer. Il y a plusieurs personnes dans ces ateliers, vous ne serez pas tout seul. Il y a les vidéos YouTube, il y a l'entraide, il y a tout simplement le test est échoué. C'est pas du tout grave, il n'y a aucune pression de résultat. Vous pouvez très bien venir pour faire une petite trousse ou alors juste essayer de coudre deux morceaux de tissu ensemble. L'objectif n'est pas de créer... Enfin, pourquoi pas, si vous êtes doué en couture, et vous pouvez créer des super pièces, mais l'objectif est vraiment de tester Et s'il y a une sorte de petit échec dans la couture et dans l'objet créé, c'est pas grave du tout parce que vous aurez créé une valeur intrinsèque et qui est davantage liée à la découverte, l'entraide, l'apprentissage, etc. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde peut être que content.
Et donc le 7 juin dernier, vous avez proposé un atelier gratuit pour le printemps citoyen. Comment ça s'est passé? Quel genre de retour vous ont fait les gens?
Tout à fait. Alors on essaie de participer de plus en plus à des événements liés à la ville, à la métropole, mais aussi à des maisons de quartier. Donc effectivement, on a participé au printemps citoyen. C'est le stagiaire qui était là qui avait trouvé cette opportunité. Et du coup, il y a 3 nouvelles personnes qui ont pris connaissance de cette association et de nos ateliers via le printemps citoyen. Et du coup, ces personnes étaient super contentes. Elles ont pu prendre le temps de faire la couture. C'est souvent ce qui revient. C'est voilà, des fois, on ne prend pas le temps, on ne prend pas le temps d'apprendre. Donc, elles étaient vraiment contentes. Et donc, toutes vont revenir pour finir leur trousse. Il me semble que la deuxième personne a coupé une robe pour en faire un ensemble. Et la troisième personne a coupé une robe aussi, mais juste pour faire un haut qu'elle a essayé d'ajuster à sa morphologie. Donc voilà, c'était super intéressant.
À suivre alors.
Tout à fait.
On parle de mode responsable et ça tombe bien parce que la semaine dernière, il y a une proposition de loi anti-fast fashion. Vous parliez tout à l'heure de fast fashion. Elle a été votée à la quasi-unanimité au Sénat. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a voté contre. Si elle est appliquée, parce qu'elle doit encore être étudiée à la Commission européenne, cette loi interdit notamment la publicité pour des marques comme Shein ou Temu. Par exemple, est-ce que ça va dans le bon sens pour vous?
Oui, alors les marques comme Shein et Temu, c'est presque même de l'ultra fast fashion selon certains termes. Oui, bien sûr que ça va dans le bon sens. Moi, plus je vois, alors j'étais déjà convaincue d'avant, donc c'est un petit peu biaisé, mais plus je vois le nombre d'habits qui se retrouvent dans les valises chez moi, qui s'entassent, qui ne sont pas utilisés, la plupart sont métables. Alors peut-être pas au style de tout le monde, etc., etc., mais tous les vêtements sont métables. J'en ai très peu qui sont vraiment abîmés et pas métables. Donc oui, effectivement, ça va dans le bon sens. Et créer du neuf alors qu'on a des ressources incommensurables, forcément, c'est toujours compliqué.
Et cette loi, elle parle aussi d'un malus qui pourrait être appliqué au prix de ces vêtements. C'est vu par certains et certaines comme une pénalité envers les consommateurs et consommatrices. Quel est votre point de vue là-dessus?
Aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen en France de s'habiller pour pas trop cher. Après, tout dépend. Effectivement, quand on cherche de la qualité, tout de suite, les vêtements sont beaucoup plus chers quand on cherche quelque chose de durable. Mais voilà, si on achète 3 jeans par an à 20 euros, alors que si on en achète un bon à 100 euros qui va nous rester pour plusieurs années, forcément, il y a un calcul à faire.
Oui, après, parce qu'un jean, c'est combien de litres d'eau? C'est énorme, je crois.
Je n'ai pas en tête. Nous avons sur notre Instagram un mardi pour réfléchir.
Je crois que c'est une centaine de litres d'eau pour faire un jean.
C'est absolument énorme. Mais voilà, on a des petits fun facts comme ça tous les mardis sur notre, sur notre Instagram Projet As. Si
oui, jamais. Parce qu'il y a une dimension un peu sensibilisatrice.
Bien sûr.
Dans les ateliers, est-ce que vous essayez de parler aussi avec les participants, participantes, aux impacts négatifs de la fast fashion?
Alors, dans les ateliers eux-mêmes, pas spécialement. Les discussions tournent autour des vies personnelles, des points communs, etc. Parce que notre but, c'est pas de donner un cours, c'est vraiment de passer un moment convivial. Après, les personnes qui viennent aux ateliers sont souvent déjà un petit peu convaincues qu'il faut faire des efforts, que ça peut être intéressant de faire ce type d'activité. Voilà, par contre, via nos réseaux sociaux, justement, on essaye d'informer un petit peu parce qu'il y a des fois des chiffres assez marquants qui peuvent nous rester en tête. Par exemple, moi, le 30% de vêtements sélectionnés par les magasins de seconde main, c'est vraiment un chiffre qui m'est resté en tête parce que je ne pensais pas que c'était autant. L'idée, c'est de sensibiliser, évidemment, mais au sein des ateliers eux-mêmes, on peut en parler, mais ce n'est pas le but premier.
Donc il y a cet impact environnemental dont vous parlez beaucoup, mais il y a aussi un impact social parce que ces marques d'ultra fast fashion, souvent elles ont des usines qui ne respectent pas forcément les droits des travailleurs travailleuses. On a pu voir ces dernières années des usines qui s'effondrent sur les gens. C'est aussi quelque chose que dans le futur vous auriez envie d'appuyer? de communiquer autour.
Pourquoi pas, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'idées et plein de champs possibles dans ce domaine, mais c'est vrai que c'est problématique et je pense que de plus en plus de personnes s'en rendent compte. Il y a beaucoup de médias qui le montrent très bien et qui font des reportages là-dessus. Mais oui, c'est un sujet auquel il faut être sensibilisé, évidemment.
Qu'est-ce que vous avez envie pour cette toute jeune asso pour le futur ? Est-ce qu'après vos études, vous avez envie de la faire perdurer ?
Alors pour le moment, oui, c'est l'objectif. Récemment, j'ai du coup une vice-présidente et une responsable marketing qui m'ont rejoint pour développer le projet. Donc on ne compte pas s'arrêter là. Moi, j'étais pas mal occupée cette année, mais voilà, l'association a été créée en mars. L'objectif, c'est de développer au maximum les ateliers sur Rennes. Mais après, éventuellement, le rêve serait de pouvoir développer l'association dans d'autres villes parce que les problématiques sont les mêmes. Et voilà, plus de vêtements, plus de personnes viendront aux ateliers. En fait, plus on pourra utiliser des vêtements et créer de la valeur. C'est l'objectif, le rêve.
Est-ce qu'on peut rappeler les dates des prochains ateliers ? Ça se passe où ? Ça coûte combien ? Comment s'inscrire ?
Et ouais, pas de souci. Alors, le prochain atelier, c'est demain. Mardi 17 à 18h. Donc, j'utilise les locaux de Rennes School of Business pour le moment, donc ce sera là-bas. Et vous pouvez vous inscrire via le lien Hello Asso que vous retrouvez soit sur nos réseaux sociaux, soit directement en tapant projet AZE sur Internet. Normalement, c'est un des premiers liens. Et il y a également un autre atelier le samedi 28 à 14h. Donc voilà, tous les détails sont sur les réseaux sociaux, on fait des stories régulièrement, donc n'hésitez pas à vous inscrire. L'inscription à un atelier est de 1 euro symbolique. C'est vraiment pour le financement de l'association et pour vous engager dans cet atelier. Et ensuite, dans un second temps, si vous souhaitez devenir membre de l'association et participer régulièrement aux ateliers, il y a une petite cotisation de 10, 15 ou 20 euros selon vos moyens et vos envies pour participer aux ateliers. Donc voilà, c'est majoritairement comme ça qu'on se finance. Et le dernier financement, c'est la vente de vos créations. Soit vous les gardez pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez les racheter à l'asso pour un mini prix. Soit nous, on s'occupe de créer une collection qui ne va pas tarder à sortir pour pouvoir vendre vos créations avec votre nom. Et voilà.
Bientôt un défilé de mode. Alors.
Exactement, c'est dans les projets.
Ah, super. Merci beaucoup, Alicia Bourgeois, d'être venue nous parler de votre projet.
Comme vous voulez. Mais merci beaucoup, c'était super sympa.
Merci à vous. Super.
Merci.
Avant minuit.
Et c'est l'heure de la chronique d'Enora, les volcaniques.
Et oui, et c'est déjà l'avant-dernière chronique Sniff, la chronique où je parle de nous, les meufs, et de nos espaces. Ce qu'on se crée, ce qu'on arrache, ce dans lesquels on s'impose et on prend la place. Et il y en a un dans lequel j'ai mis du temps à prendre ma place. Depuis que j'ai commencé mes études de cinéma, il y a un endroit duquel j'ai toujours cherché à m'extraire, la place de technicienne, je n'en voulais pas. Puis cette année, j'ai plus eu le choix, il n'y avait que moi et il allait falloir que je la prenne, cette place. Ça m'a questionnée, beaucoup. Pourquoi je ressentais une telle crainte ? Pourquoi je me sentais si incapable ? Pourquoi ça me paraissait être un monde de faire fonctionner un enregistreur, une caméra ou une table de mixage ? Et est-ce que j'étais la seule meuf à ressentir tout ça ? Alors je suis allée enregistrer mes amis pour leur poser la question.
Quel est ton rapport à la technique, Olive ?
En fait, j'arriverai pas trop à définir exactement mon rapport à la technique parce que j'ai l'impression qu'il change beaucoup.
Mon rapport à la technique, je pense qu'il a évolué aussi avec ma construction personnelle. Du coup, moi, j'ai commencé à apprendre en allant aux Beaux-Arts. J'ai appris beaucoup par moi-même avec des tutos sur Internet, quoi.
Mon premier rapport, c'est quand il a fallu que je construise une maison. Et c'est la première fois que je me suis retrouvée devant des outils, devant de la matière.
J'ai l'impression qu'avant, je me disais que la technique était quelque chose de très obscur, que quand on m'expliquait, les mots étaient très complexes et je me disais que j'allais jamais réussir à atteindre quelque chose qui ressemble à une maîtrise à peu près globale des outils.
Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal avec la technique et je me disais que c'était pas fait pour moi.
Dans ma vie, il y a eu que des hommes qui m'aient appris des trucs et j'avais l'impression qu'ils faisaient un peu exprès de faire des trucs compliqués.
Toujours un peu l'impression de te faire engueuler à moitié parce que t'arrives pas trop à comprendre certains trucs.
Mais après, c'est un ressenti que j'avais sur plein de domaines. Du coup, j'étais là, bon.
Parce que je suppose aujourd'hui que c'est une construction sous notre merveilleux système du patriarcat.
On va me dire que je lui mets tout sur le dos au patriarcat, mais dans les discussions qui se sont engagées, c'est beaucoup de ça dont il a été question. De nos imaginaires et de nos possibilités d'identification, de nos éducations aussi, souvent genrées, et de nos curiosités, attisées ou non. La mienne, j'ai soufflé dessus. Je suis allée voir Clotilde, ça fait longtemps que sa maison est construite et qu'à côté, elle travaille comme régisseuse son. Elle est facile à reconnaître, elle porte un t-shirt jaune avec inscrit « La régie, c'est pas ta mère ». Je suis allée la voir parce qu'il y a quelques mois, j'ai dû apprendre à faire de la radio. Sauf qu'on dira que pendant la formation, l'instructeur avait envie de garder son pouvoir. Alors j'ai peu appris et c'est Clotilde qui m'a montré. Elle m'a expliqué et réexpliqué, mais surtout elle m'a laissé faire. J'ai fait de mes mains et j'ai essayé d'attraper la liberté dont elle m'avait tant parlé. Mais même compétente, on fait face à un autre prisme du sexisme.
Quand j'ai besoin d'acheter un truc, par exemple, j'ai besoin d'acheter du matériel. Par exemple, j'ai besoin d'acheter une bonnette pour protéger mon micro. Et j'ai toujours une angoisse terrible d'aller dans le magasin de son. Parce que, en fait, c'est toujours des mecs. Et que je me renseigne toujours un maximum sur ce que je vais prendre, je veux tel truc, je veux pas que tu m'expliques deux choses, je suis obligée de me préparer mentalement parce que sinon c'est toujours un moment terrible où il y a un mec qui va me dire mais c'est pas du tout ça que tu dois prendre, tu devrais prendre ça. Et une fois même un mec qui m'a dit ça existe pas ce que tu veux, alors que je savais que ce truc existait. Et du coup, j'ai dû aller dans un autre magasin et à chaque fois j'ai des sueurs en me disant ça va être un moment terrible où on va vouloir m'expliquer comment faire mon taf, quoi.
C'est Iris, une podcasteuse aguerrie, qui m'avait raconté ce vécu. Trois jours plus tard, je le vivais aussi, ce sexisme. Avec Léa, une amie, il fallait qu'on installe notre studio radio dans un nouveau lieu. Sauf que le technicien sur place a refusé de nous faire la transmission, à nous, et a attendu de parler avec un de nos collègues, un homme. C'était tellement ridicule de le voir bondir sur lui, à peine il avait fait un pas dans la pièce. Le rapport à la technique, ça vient toucher aux questions d'éducation, de confiance en soi et d'apprentissage. Mais ça concentre aussi et surtout de la dépendance et du pouvoir. La technique, c'est un vrai pouvoir. Et comme tous les pouvoirs, il ne doit pas être aux mains d'une poignée de gens, mais appartenir à tous.
Merci Nora. Est-ce qu'on check notre répondeur, Marilyn ?
Ah, le téléphone !
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Vide. Mais il ne tient qu'à vous de le remplir. Notre numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Laissez-nous un message. Faites-nous un retour sur nos super chroniques, nos reportages, nos flash infos. Bref, dites-nous tout ce que vous avez envie de nous dire. Sur nos invités aussi, nos super invités. N'hésitez pas. 02 30 96 25 35. Merci Marilyn pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllab,
la radio sauvage.